Chapitre 35. L'épreuve du cœur. Après avoir cherché sans trouver, il arrive que l'on trouve sans chercher. Jérôme K. Jérôme. Hôpital Marie Curie, 8h10.
On la rouvre, ordonna Clouzot.
C'était ce qu'il redoutait. Le ventricule droit venait de se déchirer, provoquant un afflux massif de sang. Celui-ci giclait de toutes parts et inondait la zone de travail. L'interne et l'infirmière avaient tellement de mal à l'aspirer que Clouzot dut compresser le cœur avec ses mains pour essayer de stopper l'hémorragie. Cette fois, la vie de Billy ne tenait plus qu'à un fil. Quai Saint-Bernard, 8h45.
Oh les gars, c'est l'heure de se mettre au boulot, pas celle de prendre votre petit-déj,
éructa le capitaine Karine Agnelli en entrant dans la salle de repos du quartier général de la brigade fluviale. Un croissant dans la main, une tasse de café au lait dans l'autre, les lieutenants Diaz et Capella parcouraient les titres du Parisien en écoutant à la radio la chronique de l'imitateur vedette de la tranche matinale. Avec ses cheveux courts en bataille et ses charmantes taches de rousseur, Karine était aussi féminine qu'autoritaire. Exaspérée par ce laisser-aller, elle éteignit le poste et remua ses hommes.
« La voirie vient d'appeler. On a une urgence. Un type éméché a fait le grand saut depuis le pont Marie. Alors vous allez vous sortir les doigts du... »«
On arrive, patron !»
la coupa Diaz.
« Pas la peine d'être grossière !»
En quelques secondes, ils prirent place tous les trois à bord du Cormoran, l'une des vedettes de ronde utilisées pour surveiller le fleuve parisien. L'embarcation fendit les flots, longeant le quai Henri IV et passant sous le pont de Sully.
« Faut être sacrément torché pour avoir envie de se foutre à l'eau par ce froid », fit remarquer Diaz.
« Mouais, vous m'avez pas l'air très frais non plus, tous les deux », jugea Karine.
« Cette nuit, le petit dernier n'a cessé de se réveiller »,
se justifia Capella.
« Et vous, Diaz ?»«
Moi, c'est à cause de ma mère. »«
Votre mère ?»«
C'est compliqué »,
fit-il d'un ton évasif. Elle n'en sut pas plus. La vedette continua sa course le long de la voie Georges Pompidou, jusqu'à ce que...
« Je l'aperçois !»
cria Capella derrière ses jumelles. L'embarcation ralentit en dépassant le pont Marie. À moitié asphyxié, les mouvements entravés par un imperméable, un type se débattait dans l'eau, essayant péniblement de rejoindre la berge.
« Il est en train de se noyer !» constata Karine. « Qui y va ?»«
Cette fois, c'est au tour de Diaz !» assura Capella.
« Tu rigoles ? Hier soir, c'est moi qui... »«
Ok, j'ai compris !»
le coupa la jeune femme.
« Finalement ici, je suis la seule à en avoir dans le pantalon. »
Elle boucla sa combinaison et se jeta à l'eau sous le regard penaud de ses deux lieutenants. Elle nagea jusqu'à l'homme, le rassura et le ramena vers le Cormoran, où Diaz le réceptionna et l'emmitoufla dans une couverture avant de lui prodiguer les premiers soins. Encore dans l'eau, Karine aperçut un objet qui flottait à la surface du fleuve. Elle l'attrapa. C'était une grosse enveloppe à bulles en plastique. Pas vraiment le genre de truc biodégradable. La lutte contre la pollution faisait également partie des attributions de la fluviale. Elle récupéra le paquet avant que Capella ne la hisse sur la vedette. Hôpital Marie Curie. L'équipe chirurgicale travailla toute la matinée à essayer de sauver Billy. Dans sa tentative de réparer la lacération ventriculaire, Clouzot utilisa une partie du repli du péritoine pour refermer l'incision. C'était l'opération de la dernière chance. Le pronostic était sombre. Quai Saint-Bernard, 9h15. De retour au quartier général de la brigade fluviale, le lieutenant Capella s'occupa de vider la vedette avant de la passer au nettoyeur à haute pression. Il récupéra l'enveloppe à bulles, gorgée d'eau comme une éponge. Elle contenait un livre en anglais qui semblait dans un sale état. Il était sur le point de le balancer dans la benne à ordures lorsque, se ravisant, il décida finalement de le déposer sur le quai. Puis les jours défilèrent. Milo m'avait rejoint à Paris et m'aida à traverser ce moment difficile. Oscillant entre la vie et la mort, Billy resta plus d'une semaine en réanimation, sous la surveillance vigilante de Clouzot, qui évaluait toutes les 3 heures l'état de santé de sa malade.
Compréhensif, il me toléra un accès permanent à l'aria. Je passai ainsi une bonne partie de mes journées, assis sur une chaise, mon ordinateur portable posé sur les genoux, à taper avec fièvre sur mon clavier au rythme du bruit du monitoring cardiaque et du respirateur artificiel. Assommé d'antalgiques, Billy était intubé, noyé sous les électrodes, les drains thoraciques et les perfusions qui partaient de ses bras et de sa poitrine. Elle ouvrait rarement les yeux et, lorsqu'elle le faisait, je lisais dans son regard sa souffrance et sa détresse. J'aurais voulu la réconforter et sécher ses larmes, mais tout ce que je pouvais faire, c'était de continuer à écrire. Au milieu du mois d'octobre, attablé à la terrasse d'un café, Milo termina une longue lettre à Carole. Il inséra les feuillets dans une enveloppe, régla son Perrier menthe et traversa la rue pour rejoindre les berges de la Seine à la hauteur du quai Malaquais. Tout en se dirigeant vers l'Institut de France, où il avait repéré une boîte aux lettres pour poster son courrier, il flâna un moment devant les casiers des bouquinistes. Des livres anciens de qualité y côtoyaient des cartes postales de Doineau, des affiches vintage du Chat Noir, des vinyles des années 1960 et d'horribles porte-clés de la Tour Eiffel. Milo s'arrêta devant un libraire spécialisé dans les bandes dessinées. De Hulk à Spider-Man, ses rêves d'enfant avaient été peuplés par les héros des comics Marvel, et cet après-midi-là, il découvrit avec intérêt quelques albums d'Astérix et de Lucky Luke. Le dernier casier regroupait les publications, tout à 1 €. Milo y fouilla par curiosité. Vieilles éditions de poches jaunies, magazines déchirés et, parmi ce bazar, un roman abîmé à la reliure en cuir bleu nuit. C'est impossible! Il examina le livre. La reliure était toute gondolée, les pages collées et sèches comme de la pierre. Where did you get this book? Demanda-t-il, incapable de prononcer la moindre phrase en français. Le libraire qui baragouinait quelques mots d'anglais lui expliqua qu'il l'avait récupéré sur les quais. Mais Milo n'arrivait pas à savoir par quel miracle l'ouvrage dont il avait perdu la trace à New York se retrouvait 10 jours plus tard à Paris. Encore déboussolé, il tourna et retourna l'ouvrage entre ses mains. Certes, le roman était bien là, mais dans un tel état. Le bouquiniste comprit son désarroi. « Si vous voulez le restaurer, je peux vous conseiller quelqu'un », lui proposa-t-il en tendant une carte de visite. Annexe du prieuré Saint-Benoît, quelque part dans Paris. Au sein de l'atelier monastique de reliure artisanale, sœur Marie-Claude examina l'ouvrage qu'on lui avait confié. Le corps du livre était meurtri et contusionné, et sa couverture en simili-cuir très endommagée. La restauration qu'on lui avait demandée lui paraissait difficile, mais la religieuse s'attela à sa tâche avec détermination. Elle commença par débrocher consciencieusement le livre. Ensuite, à l'aide d'un humidificateur à peine plus gros qu'un stylo, elle propulsa sur le roman une vapeur très fine dont la température s'afficha sur un écran digital. Le nuage humide imprégna le papier et sépara les pages collées. Comme elles avaient été mouillées, les feuilles étaient fragiles et en partie délavées. Avec précaution, sœur Marie-Claude inséra des buvards entre chaque page avant de placer l'ouvrage sur sa tranche inférieure et, avec une infinie patience, elle utilisa un sèche-cheveux pour ramener le livre à la vie. Quelques heures plus tard, on pouvait de nouveau tourner les pages avec une certaine fluidité. La religieuse les contrôla une à une avec minutie, s'assurant chaque fois que le travail avait été bien fait. Elle recolla les photos qui s'étaient détachées, ainsi que la petite mèche de cheveux qui était si fin que l'on aurait dit des fils d'ange. Enfin, pour rendre au volume sa forme originelle, elle le plaça une nuit entière entre les deux planches d'une presse. Le lendemain, sœur Marie-Claude entreprit de lui confectionner une nouvelle peau. Dans le recueillement de son atelier, entourée de silence et de paix, elle travailla toute la journée avec une précision chirurgicale pour réaliser une reliure en veau teinté qu'elle agrémenta d'une étiquette en agneau sur laquelle elle grava le titre à la feuille d'or. À 19h, le jeune Américain au prénom étrange frappa à la porte de la communauté monastique. Sœur Marie-Claude remit le livre à Milo, qui lui fit tant de compliments sur son travail qu'elle ne put s'empêcher de rougir. « Réveille-toi !» m'ordonna Milo en me secouant. « Bon sang !» Je m'étais encore endormi devant l'écran de mon ordinateur,
dans la chambre d'hôpital qu'occupait Billy avant qu'on ne l'opère de nouveau. J'y passais toujours mes nuits, avec l'accord tacite du personnel. Les stores étaient baissés et la pièce était éclairée d'une faible veilleuse. « Quelle heure est-il » demandai-je en me frottant les yeux. « 23 heures. » « On est quel jour déjà ?»« Mercredi. » Il ne put s'empêcher d'ajouter d'un air moqueur. « Avant que tu me poses la question, on est bien en 2010 et Obama est toujours président. » Lorsque j'étais plongé dans une histoire, mes repères temporels avaient tendance à se brouiller. « Tu as écrit combien de pages ?» demanda-t-il en essayant de lire par-dessus mon épaule. « 250, » dis-je en rabattant l'écran. « J'en suis à la moitié. »« Comment va Billy ?»« Toujours sous surveillance, en réanimation. » Avec solennité, il sortit d'un sac cartonné un livre luxueusement relié. « J'ai un cadeau pour toi, » dit-il mystérieusement. Il me fallut un moment pour comprendre qu'il s'agissait de mon propre ouvrage qu'il avait traqué avec Carole aux quatre coins du monde. Le livre était solidement restauré et sa couverture en cuir, chaude et lisse au toucher. « Billy ne craint plus rien, » m'assura Milo. « À présent, tout ce qui te reste à faire est de terminer ton histoire pour la renvoyer dans son monde. » Les semaines et les mois défilèrent. Octobre, novembre, décembre. Le vent emporta les feuilles jaunies tombées sur les trottoirs, et à la douceur du soleil d'automne succéda la rigueur de l'hiver. Les cafés rentrèrent les chaises des terrasses ou allumèrent leurs braseros. Les vendeurs de marrons firent leur apparition aux bouches de métro où, d'un même mouvement, les passants enfilaient leurs bonnets et resserraient leurs écharpes. Porté par mon élan, j'écrivais de plus en plus vite, enfonçant les touches de mon clavier sans presque reprendre mon souffle. Possédé par une histoire dont j'étais à présent davantage le jouet que le créateur et hypnotisé par les numéros des pages qui défilaient sur mon traitement de texte. 350, 400, 450. Billy avait tenu le choc et passé avec succès l'épreuve du cœur. On lui avait d'abord ôté le tube qui entravait son larynx pour le remplacer par un masque à oxygène. Clouzot diminua ensuite progressivement les doses d'antalgiques et lui retira ses drains et ses perfusions, soulagé de voir que les prélèvements bactériologiques ne montraient pas de nouvelles traces d'infection. Puis on la débarrassa de ses pansements pour recouvrir ses plaies suturées d'un film transparent. Au fil des semaines, sa cicatrice se fit plus discrète. Billy recommença à boire et à manger de façon autonome. Je la vis faire ses premiers pas, puis grimper un escalier, sous la vigilance d'un kiné. Les racines de ses cheveux avaient retrouvé leur couleur d'origine et elle, son sourire et sa vitalité. Le 17 décembre, Paris se réveilla sous les premiers flocons de neige qui tombèrent toute la matinée. Et le 23 décembre, je mis un point final à mon roman.